Kiosque Magazine.
Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes du canal M. Nous vous proposons le Kiosque Magazine du lundi qui s'intéresse à la culture et à la société. Franceline Nieuvia, bonjour.
Oui, bonjour Roger, bonjour tout le monde.
Bonjour Serge Hamelin.
Bonjour Monsieur Roy.
Bon, Roger de son prénom.
Vous allez bien?
Je vais autant que faire se peut. Et en régie, Keep Calm, Carry On, ça c'est notre ami Mathieu, Mathieu Tessier, qui va nous mener avec son slogan jusqu'à la fin de l'heure qui commence. Qu'avons-nous au menu aujourd'hui, Franceline?
Oui, alors moi, le premier sujet, ce sera quelques informations pratiques à propos du bon voisinage et puis à propos de voyage. Et le deuxième sujet s'intitule « Pourquoi pas la pétanque ?» C'est encore l'été. Et ces deux thèmes sont pris dans la revue « Le bel âge » de juillet-août 2015.
Ah ben oui, la pétanque.
La pétanque.
Le bel âge, la pétanque.
Il n'y a que ça.
Ben moi, je serai dans la revue « Protégez-vous » et je vais parler d'allergie au niveau alimentaire.
Ah oui?
Pas au niveau physique, là. Genre, je suis allergique à cause d'un monsieur ou d'une madame, là. Non, c'est les aliments.
Bon. C'est tout?
C'est tout.
Bon.
Ah ouais, ben, ça sera un grand sujet, un vaste sujet.
Ah,
un menu sans lait, sans soja, sans peanuts, sans si, ça finit plus, là.
Ben, moi, je vais vous parler du cerveau, là. Comment on peut qu'on peut aider nos méninges à mieux fonctionner.
Ah, il y en a qui ont le cerveau lent, c'est un beau sport.
C'est ça. Mais pour tout de suite... Pour tout de suite, pour commencer, deux chroniques dans l'actualité du mois d'août qui valent le détour.
Mm-hmm.
Oui. C'est des sujets différents, mais les auteurs remettent des pendules à l'heure, par exemple, au sujet de questions comme la suivante, deux des questions, la première et la suivante. Est-ce que le vin acheté en Ontario coûte moins cher que le vin acheté au Québec?
On a hâte de savoir.
Oui, mais pour tout de suite, est-ce que Terre-Neuve va damer le pion au Québec pour l'exploitation du pétrole de Old Harry? Vous avez entendu parler de Old Harry?
Non, mais je sens que je vais en entendre parler.
D'abord, Old Harry, avec un texte de Antoine Dion Ortega. Il a été aidé par Pierrick Blien, à moins que ce soit l'inverse, intitulé « Les sirènes pétrolières ». En plein golfe du Saint-Laurent, à 80 km des îles de la Madeleine, deux provinces se disputent-elles vraiment les hydrocarbures enfouis sur Old Harry? C'est pas certain du tout. Trout River, minuscule village de 700 habitants blotti au creux d'une anse à l'entrée du parc national du Gros Morne sur l'île de Terre-Neuve, c'est aux jeunes qu'incombe la corvée de sortir les prises de la cale des bateaux pour les jeter dans les bacs, Turbo, Sébaste, Aran. Les plus vieux restent peinards sur le quai à peser les arrivages. Ces pêcheurs connaissent-ils Old Harry? Qui ça? Demande candidement au fond de la cale un des plus jeunes. Le village voisin de Woody Point est encore plus petit, avec moins de 300 habitants. Raymond Cusson, ancien conseiller municipal, a entendu parler de pétrole dans les dernières années, mais ce sont surtout les projets de fracturation hydraulique dans le parc national du Gros Morne qui l'ont convaincu de se joindre à la coalition Saint-Laurent, regroupement qui demande un moratoire sur ce type de travaux dans le golfe. Si vous faites une revue de presse dans les médias de Terre-Neuve, vous ne trouverez pas grand-chose à propos d'Old Harry, dit-il. Les nouvelles, elles nous viennent du Québec. À Stephenville, le centre industriel de Baie-Saint-Georges, à 165 km à peine d'Old Harry, le maire, Tom O'Brien, a certes applaudi en février 2014 à l'installation dans sa ville de Pennycon Energy, une entreprise de services pétroliers et gaziers. Mais c'est la plateforme de forage Hebron, dans l'Atlantique Nord, qui a attiré le groupe de Saint-Jean-Terre-Neuve. Old Harry n'est pas un sujet dont nous discutons, dit le maire. Je n'ai même pas rencontré son promoteur. Rien à faire, on a beau sillonner la côte ouest de long en large, on ne trouve nulle part d'intérêt pour Old Harry, ce dôme de sel de la taille de l'île d'Orléans, situé à cheval sur la limite entre le Québec et Terre-Neuve. Pourtant, voilà plus de 7 ans que les élus québécois préviennent que Terre-Neuve s'apprête à siphonner les hypothétiques ressources qui dorment sous Old Harry et qu'il faut donc appuyer sur l'accélérateur. Après Pauline Marois et François Legault, Philippe Couillard a repris l'idée à son compte. À l'occasion d'un passage aux îles de la Madeleine en mai 2014, le premier ministre a souligné que Terre-Neuve semblait aller de l'avant pour exploiter un gisement qu'on partage géographiquement. En réalité, les Terneuviens regardent plutôt vers les gisements pétroliers de l'Atlantique Nord que prisent les Exxon, Chevron et autres géants de l'industrie. Plus de 400 puits y ont déjà été forés. Avec une production de près de 200 000 barils par jour, 13 % du brut produit au Canada, Terre-Neuve joue maintenant dans la cour des grands et a bien d'autres chats à fouetter que de prêter l'oreille aux suppositions de la modeste Corridor Resource de Halifax, qui possède les permis d'exploration d'Old Harry. Et quand la classe politique de Terre-Neuve parle d'étendre l'effort d'exploration au-delà de la côte Est, c'est la riche côte du Labrador qu'elle évoque surtout. Au Québec, on s'est monté un grand bateau avec Old Harry, estime Sylvain Archambault, porte-parole de la coalition Saint-Laurent. On a construit ce mythe que Terre-Neuve veut nous voler ce pétrole-là et qu'il faut donc aller vite. Pourtant, les Terre-Neuviens sont loin d'avoir le pied sur l'accélérateur. Voilà bientôt 30 ans que Terre-Neuve a signé un accord avec Ottawa pour sonder en mer. Aucun puits n'a encore été creusé dans sa portion du golfe Saint-Laurent. Quant à Old Harry, cela fait plus de 14 ans que Corridor Resources souhaite y forer un premier puits sans succès, faute de financement. Difficile de voir, là, un quelconque empressement de la part de Terre-Neuve. Autre sujet maintenant, il est signé celui-là par, je ne me souviens plus, je vais vous le donner dans un instant, par Pierre Duhamel, merci beaucoup pour le souffleur, qui se trouve en régie. Pourquoi je n'irai pas acheter mon vin en Ontario? Des centaines de produits moins chers en Ontario, titrait le journal Métro. Autre titre, les vins que vous achetez sont encore plus chers à la SAQ qu'en Ontario, ça c'est le journal de Montréal. La SAQ abuserait-elle de son statut de monopole pour faire payer le gros prix aux consommateurs québécois? La réponse n'est pas si simple et mérite une sérieuse mise en contexte. La société d'État est une mine d'or pour le gouvernement québécois qui en retire 1 milliard de dollars en dividendes et 570 millions en taxes diverses. Ces sommes servent à financer les dépenses courantes de l'État et elles proviennent des ventes et des profits réalisés sur les boissons alcoolisées. Pour répondre aux attentes de son actionnaire, particulièrement assoiffé ces années-ci, la SAQ a besoin de profits juteux. Les Québécois boivent plus de vin et moins de spiritueux que les Ontariens et les autres Nord-Américains. C'est donc sur les vins qu'elle doit tirer sa plus grande marge bénéficiaire. À cela s'ajoute une autre contrainte, les vins fins, à plus de 30 $ font le bonheur des connaisseurs, mais ce sont les vins à plus petit prix qui font les meilleures ventes. La SAQ doit donc se montrer proportionnellement plus gourmande sur les vins très populaires. Le journaliste Noël Chiab du quotidien Métro a créé un programme informatique pour comparer plus de 12 000 produits de la SAQ avec quelque 10 000 produits de la LCBO, ça c'est la Société des alcools de l'Ontario. Résultat, les vins de moins de 20 $ les plus vendus au Québec sont 11 % plus chers qu'en Ontario. La Société d'État ontarienne est aussi gloutonne que la SAQ, mais elle épargne davantage les amateurs de vin bon marché pour se rattraper sur les buveurs de bière et sur les spiritueux. La taxe sur la bière est en effet plus élevée en Ontario qu'au Québec. Les ventes de bière comptent pour 21 % des revenus de la LCBO et ses prix couperaient la soif à plus d'un Québécois. Une caisse de 24 bouteilles de Coors Light coûte 43,95 $. En Ontario, comparativement à 30,99 $ pour deux caisses de 12 bouteilles dans un dépanneur couche-tard québécois. Jean-Hugues Roy, professeur à l'École des médias de l'UQAM, a lui aussi mis en parallèle les prix ontariens et québécois sur 775 produits comparables. L'écart ne serait que de 49 cents la bouteille, quand on tient compte des alcools fins et des vins plus chers. Certes, vous pouvez économiser 30 cents en achetant la succursale de Hawkesbury, de la LCBO, le Californien Folia 2, ménage à 3, le vin le plus vendu au Québec, ou encore 1,05 $ sur le Sauvignon blanc de la maison néo-zélandaise Kim Crawford. Reste à voir quelle serait la véritable économie réalisée en tenant compte des 200 km aller-retour, du temps qu'il faut pour les franchir et de l'essence utilisée. Mais si vous avez fait le plein d'essence à Hawkesbury à la mi-juin, vous auriez économisé 26 cents le litre d'essence par rapport au prix à Montréal. Elle est là, la véritable aubaine. C'est dans l'actualité du mois d'août, un texte de Pierre Duhamel.
Alors maintenant, un petit texte, un premier petit texte sur vos droits. La thermopompe de mon voisin m'empêche de dormir. Que puis-je faire ?
Oh, bonne question.
Ouais, c'est une question, effectivement. Bien que la loi sur la qualité de l'environnement du Québec considère le bruit comme un contaminant, la législation provinciale ne va pas plus loin à ce propos. Actuellement, ce ne sont que les villes qui régissent en matière de bruit du voisinage. Il revient donc à chacune de ces villes de fixer les normes sonores qu'elles jugent tolérables sur son territoire. Ce qu'il est bon de savoir, c'est que la plupart des municipalités ont une réglementation relative au nombre maximal de décibels et à l'emplacement d'une thermopompe. Par exemple, à Ville-de-Laval, on limite le bruit extérieur perçu à la limite d'une propriété à 55 décibels le jour et à 50 décibels la nuit. Alors renseignez-vous auprès de votre municipalité pour connaître ces normes. Si le niveau sonore de la thermopompe de votre voisin dépasse les limites autorisées, vous pouvez porter plainte à la municipalité. Le dit voisin pourrait alors être tenu de corriger la situation sous peine d'amende. Mais les règlements de votre municipalité ne prévoient rien concernant les thermopompes. Si ce type d'appareil vous empêche sérieusement de profiter de votre propriété, le problème qu'il crée pourrait être considéré comme un trouble de voisinage, un trouble de bon voisinage. Or, c'est le Code civil du Québec qui établit les règles de bon voisinage. Ainsi, l'article 1457 stipule que toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Mieux vaut tenter de régler le problème à l'amiable. Mais si aucune négociation n'est possible, vous pouvez toujours entreprendre des procédures judiciaires contre votre voisin pour l'obliger à corriger la situation. Vous aurez cependant le fardeau de la preuve sur vos épaules. Et retenez que même si le bruit vous incommode, il ne s'agit pas nécessairement d'un trouble de bon voisinage. En effet, l'article 976 du Code civil énonce que les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent. Vous devrez donc démontrer au tribunal que le bruit provenant de la thermopompe excède les limites sonores qui doivent être tolérées entre voisins. Alors, avant d'entreprendre cette démarche, demandez conseil à un professionnel.
Oui, voilà. Saint-Lambert a certains problèmes avec Montréal.
Ben oui, c'est sûr. Oui, oui. Alors voilà, c'était donc un texte écrit par Jacqueline Simoneau dans la revue Le Bel Âge, de juillet-août 2015. Alors, un autre sujet maintenant à propos des payés en voyage. Alors, quelques conseils de Rick Steves avant de partir pour vous faciliter la vie. Avant votre départ, appelez votre banque et l'émetteur de votre carte de crédit afin de les aviser du lieu et de la durée de votre séjour. Profitez-en pour leur poser quelques questions. Mes cartes fonctionnent-elles dans les pays que je compte visiter ? Quels frais me facturez-vous sur mes retraits ou mes achats ? S'agit-il de frais fixes, d'un pourcentage ou des deux ? En plus du taux de change, quels sont les autres frais de conversion ? Si je perds ma carte de crédit ou de débit, quelle est ma part de responsabilité ? En cas de problème, quel numéro de téléphone dois-je composer pour avoir de l'aide ? À propos de ma carte de débit, quelle est ma limite quotidienne de retrait ? Vous pouvez la changer si nécessaire. Ma carte de débit encore, lequel de vos partenaires me permettront de limiter mes frais au guichet automatique ? Si vous n'avez pas de NIP sur votre carte de crédit, demandez-en un puisque plusieurs pays le requièrent. Et puis, à propos des cartes de crédit prépayé. Les cartes prépayées sont devenues populaires ces dernières années. En plus de les offrir en cadeau, on peut également les utiliser en voyage. Elles sont vendues comme des cartes de crédit puisqu'elles offrent des protections équivalentes en cas d'utilisation non autorisée. La Visa ou la Mastercard prépayée avec votre propre argent serait donc plus sécuritaire que du comptant. On transfère d'abord des fonds en chargeant sa carte prépayée. On peut ensuite effectuer des paiements ou des retraits partout où Visa ou Mastercard est accepté. De même que dans tous les guichets automatiques Visa ou Réseau Plus, et dans le cas d'une Mastercard, dans les guichets Maestro ou Cirrus. Il n'y a évidemment pas de frais d'intérêt, mais des frais annuels qui sont variables. Ces frais seront déduits à la date d'ouverture de l'achat de la carte. Par exemple, la Visa prépayée de la banque Kosia facture 10 $, alors que la Mastercard BMO pour voyage et la carte prépayée Visa Desjardins coûtent 6,95 $. Alors, il faut magasiner. Les fonds ne sont pas assurés par la Sécurité d'assurance dépôt du Canada, puisqu'ils ne sont pas considérés comme des dépôts. Ces cartes sont presque toutes offertes en dollars canadiens. Quand on les utilise à l'étranger, on paye des frais de conversion de 2,5% par transaction. L'entreprise Cash Passport offre également des cartes de voyage prépayées Mastercard. Elles permettent de faire des paiements à l'étranger, sont munies d'une puce et protégées par un NIP. Et ces cartes sont offertes en plusieurs devises, euros, dollars canadiens et américains et livres anglaises. On peut s'en procurer une et ultérieurement la renflouer en se présentant dans un point de vente, comme les bureaux de change, une banque et un agent de voyage participant. Les frais de transaction varient selon la devise. On peut vous faire payer pour des retraits au guichet, de même que si votre carte demeure inactive durant un an. Si vous dépensez dans une autre devise que celle facturée sur la carte, vous paierez alors des frais de conversion de 5%. Aussi, mieux vaut l'utiliser dans la devise du pays visité. Vous pouvez encaisser votre carte en tout temps, mais vous paierez des frais d'annulation. L'Agence de la consommation en matière financière du Canada invite les consommateurs à se renseigner quant aux différents types de frais et aux conditions d'utilisation de ces cartes. La facture pourrait être salée si vous ne faites pas attention. Par exemple, les institutions financières sous réglementation fédérale qui émettent ces cartes prépayées ne peuvent fixer une date d'expiration sur les fonds qui sont versés sur la carte. Les exceptions, les cartes promotionnelles, programmes de fidélisation ou de récompense. Voilà, donc c'était quelques informations écrites dans un article par Sophie Stival dans la revue Le Bel Âge de juillet-août 2015.
Segunda-feira, descendo uma ladeira, na praia, na esteira, com barulho de motor em fevereiro. Debaixo do chuveiro, de chapéu de cangaceiro, de jaleco de doutor na primavera. Na frente da galera, na jaula de uma fera, derretendo de calor. O que eu desejo, o que eu mais quero quando vejo a tua boca, o teu beijo, não me negue seu amor. Olhando a lua, andando pela rua, desfilando quase nua, numa lada beija-flor, no chão da cama, de fraque de pijama, no deserto do Atacama, numa pilha de isopor, de qualquer jeito, a torto ou a direito, pra ninguém botar defeito, mas com todo meu ardor, o que eu desejo, o que eu mais quero, quando vejo a tua boca, é o teu beijo, não me negue seu amor. Não me negue seu amor, me entregue seu amor. Na praia, na esteira, com barulho de motor em fevereiro. Debaixo do chuveiro, de chapéu de cangaceiro, de jaleco de doutor. Na primavera, na frente da galera, na jaula de uma fera, derretendo de calor. O que eu desejo, o que eu mais quero, quando vejo a tua boca, o teu beijo, não me negue seu amor. pela rua, desfilando quase nua. Numa lata vejo a flor, chão na cama, de fraque de pijama, no deserto do Atacama, numa pilha de isopor. De qualquer jeito, a torto ou a direito, pra ninguém botar defeito, mas com todo o meu ardor. O que eu desejo, o que eu mais quero, quando vejo a tua boca, o teu beijo, não me negue seu amor.
On ne sait pas trop ce qu'elle dit, mais c'est bien chanté.
Hein? C'est joli.
Bia.
C'est du portugais.
C'est ça.
J'ai rien compris. Alimentation, allergie, cauchemar en classe, ça n'a plus de bon sens. Cet article a été écrit par Catherine Crépeau. On le trouve dans la revue Protégez-vous de septembre. Les allergies alimentaires représentent un véritable défi, pour ne pas dire un cauchemar, pour les établissements scolaires et un casse-tête pour les parents. Les écoles en font-elles trop ou pas assez? On est loin de Marguerite Bourgeois, je trouve. On n'entendait pas parler d'allergies alimentaires à cette époque. Faut croire que les gens mangeaient pas, je sais pas. Les repas à l'école peuvent être une source d'angoisse pour les parents dont le bambin est allergique à certains aliments, comme les arachides, les fruits de mer ou les produits laitiers. Mon enfant est allergique aux œufs et il peut mourir. Si un camarade qui en a mangé touche les mêmes objets que lui sans s'être lavé les mains,
ben voyons donc.
C'est un grand stress, nous confie la mère de famille Julie Bernard. Les symptômes surviennent généralement dans les minutes qui suivent l'absorption de l'aliment allergène. Ils vont des démangeaisons aux rougeurs cutanées, en passant par le picotement dans la bouche ou l'enflure des lèvres, du visage ou de la gorge. La forme la plus grave de réaction est l'anaphylaxie. Provoque des difficultés respiratoires ou une chute de tension artérielle accompagnée d'un état de choc pouvant entraîner une perte de connaissance, voire la mort. La seule façon d'empêcher une telle réaction est d'éviter l'allergène. Et le seul traitement est l'injection immédiate d'épinéphrine. Avez-vous ça, vous, dans votre portefeuille? Malgré le danger qui plane sur les écoles, le gouvernement du Québec n'a pas jugé bon d'imiter l'Ontario et de se doter d'une réglementation concernant l'anaphylaxie en milieu scolaire. Les écoles tentent donc de s'adapter, tant bien que mal, à la hausse du nombre d'enfants vivant avec une allergie alimentaire. Interdiction de certains aliments, tables réservées aux élèves allergiques, etc. En l'absence de réglementation provinciale, les directives varient d'une commission scolaire à l'autre et même d'un établissement à l'autre. Ainsi, une école peut bannir les arachides et sa voisine les autoriser. Et c'est sans compter l'absence de règles uniformes en ce qui a trait à la formation du personnel scolaire en matière d'anaphylaxie et à l'entreposage des auto-injecteurs d'épinéphrine. La solution, selon les experts que nous avons consultés, plus de prévention et la mise en place d'un protocole d'intervention dans tous les établissements scolaires de la province. À quand une politique claire? Les directions d'école doivent assurer la sécurité des enfants souffrant d'allergies, mais elles disposent de peu d'outils pour le faire, à part la politique alimentaire de leur commission scolaire. Le problème est que ces politiques établissent des règles en matière d'alimentation saine, comme l'exige le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mais qu'elles traitent rarement des allergies alimentaires ou alors le font de matière disparate. Par exemple, la commission scolaire des Rives du Saguenay interdit les arachides et les noix dans tous ses établissements. Donc, il n'y a pas d'écureuil dans la cour. Alors que la commission scolaire des Patriotes sur la rive sud de Montréal ne réglemente pas les aliments que les élèves peuvent apporter en classe. Nous conseillons aux écoles d'éviter les interdictions, précise la porte-parole Marie-Saint-Arnaud. Mais un directeur pourrait demander aux parents de son école ou d'une classe où un enfant a une allergie grave d'exclure certains aliments des boîtes à lunch. Ainsi, même dans les commissions scolaires où la prévention l'emporte sur l'interdiction, les écoles ont tout de même la liberté d'exclure les arachides et les noix responsables de la majorité des réactions anaphylactiques chez les enfants. D'autres établissements ratissent plus large et bannissent aussi le poisson ou les œufs, nous ont rapporté nos lecteurs sur Facebook. Ça serait pas drôle en Tokyo, ça, parce que c'est des mangeurs de poisson là-bas. Hein? Oui, c'est ça. Une mère de famille s'est même vue refuser des muffins faits maison parce qu'il n'était pas accompagné d'une liste d'ingrédients.
Ben voyons donc.
Ça n'a plus de bon sens. Vive Marguerite Bourgeois. Exagérer ses exigences, oui et non, selon Marie-Josée Bettez, présidente de Déjouer les allergies, un site web consacré au sujet. Elle est d'avis que les restrictions ne sont pas une bonne solution, notamment à cause des impacts qu'elles ont sur les autres élèves et du mécontentement qu'elles peuvent susciter chez les parents. Et Marie-Josée Bettez rapporte le cas de son fils qui souffre de multiples allergies. Et lorsqu'il est entré à la maternelle, l'école a suivi les recommandations de l'allergologue et a banni les produits laitiers de sa classe pour les collations. Alors, ça a été épouvantable. Il y a eu un tollé, nous raconte-t-elle. Des parents ont même demandé que Christopher ne soit pas dans le groupe de leur enfant l'année suivante. Alors, ça cause donc, comme vous voyez, on n'est pas au courant, nous, parce qu'on ne va plus à l'école, mais ça a l'air qu'ils ont des problèmes sérieux, hein. Eh bien, c'était l'article écrit par... une partie de l'article écrit par Catherine Crépeau qu'on retrouve dans la revue Protégez-vous du mois de septembre.
Nous faisons une pause. Nous vous revenons dans 2 minutes.
Oh oui. Et même moins.
Écoutez Kiosque Magazine.
On aime ça de nos jours, vous donner des conseils, nous donner des conseils. Dans la Reader's Digest du mois de septembre, Daniel Groen et Cathy Underwood nous disent qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer son aptitude à apprendre, pour mieux apprendre.
Oui, oui, on en a toujours besoin.
Oui, premier conseil. Manger du poisson, c'est bon pour le cerveau. Ça, c'est, on le dit, on le répète, mais ça fait des millénaires. Il y a des millénaires, les hommes se débrouillaient déjà assez bien, mais c'est quand ils se sont installés dans les bassins de grandes rivières que les civilisations ont vraiment commencé à prospérer. Il en a été ainsi en Égypte, en Mésopotamie, dans la vallée de l'Indus. Les êtres humains deviennent plus intelligents et raffinés quand ils vivent près des cours d'eau, confirme le docteur Cyrus Raji, radiologue résident de l'Université de Californie à Los Angeles. Rien d'étonnant donc à ce qu'une étude publiée en 2014 dans l'American Journal of Preventive Medicine établisse que consommer du poisson peut accroître la taille du cerveau imaginé. En examinant 260 sujets septuagénaires sans déficience cognitive, le docteur Raji et ses collègues ont en effet découvert que l'hippocampe, c'est le centre de l'apprentissage dans le cerveau, est 14 fois plus grand chez ceux qui mangent du poisson cuit ou grillé au moins une fois par semaine que chez ceux qui s'en privent. Les oméga-3 qu'on trouve dans le poisson et les fruits de mer améliorent également les performances des neurones du lobe frontal qui jouent un rôle essentiel dans les fonctions cognitives telles que la mémoire à court terme et la planification de tâches. Si vos neurones sont plus gros et forts, et s'ils peuvent établir de meilleures connexions avec les autres neurones, ils peuvent accomplir leur travail de manière plus efficace, dit toujours le même docteur Raji. Bien entendu, on peut compléter le saumon et le flétan avec des huîtres, du hareng, de la truite et même des sardines. Si le poisson est peut-être le secret d'un cerveau plus costaud, la variété donnera en somme du piquant à la vie. Je ne sais pas comment ils font pour le mesurer, mais enfin. Deuxième conseil, prenez votre dose de caféine. Ça, j'aime ça, ce conseil-là. C'est excellent. Une petite dose d'expresso vous rend très alerte, mais des recherches récentes montrent que cela peut aussi favoriser votre mémoire à long terme. Dans une étude menée à l'Université Johns Hopkins, on a donné aux participants soit un placebo, soit 200 millilitres de caféine après qu'ils avaient étudié une série d'images. C'est bizarre comme formulation. Après qu'ils avaient étudié une série d'images. Le lendemain, on leur a montré une deuxième série d'images et on leur a demandé de reconnaître des détails similaires, mais non identiques, à la série précédente. Les sujets qui avaient consommé de la caféine ont obtenu de bien meilleurs résultats que ceux qui n'avaient reçu que le placebo. Ce que les scientifiques appellent « pattern separation » met en jeu un niveau plus profond de rétention de la mémoire. Par conséquent, quand vous avez à apprendre quelque chose de nouveau, servez-vous un petit café. C'est si bon. Vaut mieux écrire à la main qu'au clavier. Saviez-vous ça, Serge? Les progrès de technologie nous amènent à mettre au rancard les vieilles techniques analogues, mais quand il s'agit d'assimiler de nouvelles données, prendre des notes à la main est sensiblement plus efficace que tapoter sur un clavier. Selon une étude publiée dans la revue Advances in Haptics, H-A-P-T-I-C, et menée par un chercheur de l'université de Stavanger, en Norvège, et un neurophysiologiste de l'université d'Aix-Marseille, l'acte physique d'écrire, et non de dactylographier, stimule à la fois les centres sensorimoteurs et langagiers de notre cerveau. Cet élément de mémoire motrice joue un rôle dans la reconnaissance visuelle des mots, ce qui pourrait impliquer qu'écrire une note à la main laisse une impression plus durable dans le cerveau. Écrire « blanc de poulet » sur une liste d'épicerie en papier prend plus de temps que, par exemple, aller chercher le symbole de poulet sur le téléphone, et ce temps supplémentaire peut également contribuer à la rétention. Votre maîtresse de troisième année avait peut-être raison quand elle vous faisait recopier des lignes de texte. Alors, c'est les punitions, c'était bénéfique pour les étudiants qui avaient à écrire 20 fois le même texte. Quatrième, autre suggestion, autre conseil, éteignez la radio et allumez votre mémoire. Les enfants d'aujourd'hui sont capables simultanément de clavarder, de gérer leur compte Facebook, de publier des photos sur Instagram, de manger et de parler avec des amis, mais les adultes plus âgés paient le prix fort quand ils essaient de faire du multitâche dans un environnement bruyant. Une étude récente du Georgia Institute of Technology a démontré que la musique assourdissante réduit les capacités mémorielles. Les participants d'un certain âge ont retenu 10 % moins de noms quand les chercheurs leur montraient des visages. Notre mémoire associative tend naturellement à décliner avec l'âge, mais si on ajoute à cela un fond de musique tapageuse, notre cerveau devient sérieusement confus. La musique classique ou un petit jazz paisible peut contribuer à vous détendre quand vous lisez, mais cela ne vous aidera pas si vous essayez de vous rappeler si le beau-frère de votre sœur s'appelle Jean-Jacques ou bien Jean-Claude. Dernier conseil dont je veux vous parler, on ne lit pas avec ses oreilles. Selon la sagesse populaire, la meilleure manière d'améliorer la lecture pour les personnes qui ont de la difficulté consiste à épeler phonétiquement ce qu'elles lisent. Mais selon une étude publiée dans le Journal of Neuroscience plus tôt cette année, il se pourrait que la clé de l'apprentissage de nouveaux mots soit purement visuelle. Des chercheurs du Georgetown University Medical Center à Washington ont travaillé avec 25 personnes à qui ils ont demandé de mémoriser une série de 150 assemblages de lettres sans signification. Au début, les efforts des sujets pour retenir le charabia n'ont donné que du charabia. Mais en utilisant l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, les scientifiques ont découvert qu'après que les sujets avaient passé un certain temps à essayer d'assimiler l'information, l'aire du cerveau, qui correspond à la reconnaissance visuelle des formes de mots, s'activait. Ils avaient commencé à interpréter les groupes de lettres comme des mots. On ne lit donc pas avec ses oreilles, et c'est sur ce sage conseil que je termine ce texte qu'on pouvait retrouver dans le Reader's Digest du mois de c'est peu tendre.
Nous allons vivre quelques semaines d'été, peut-être encore en septembre, alors pourquoi pas la pétanque ?
Au moins une semaine.
Oh oui, alors c'est un article écrit par Marie-Josée Lacroix dans Le Bel Âge de août 2015. Depuis toujours, les Français jouent à la pétanque et ils ont introduit ce jeu de boules ici, comme l'explique Pierre Hébert, président du club de pétanque Les Voisins de Laval. Au début, peu de Québécois jouaient. Ce sont surtout les Français, dont Jean Raffa, qui l'ont popularisé. Il jouait au Parc La Fontaine, à Montréal. C'est là que M. Hébert a lui-même commencé il y a environ 9 ans. Un ami qui y jouait m'avait amené et j'ai tout de suite trouvé ça agréable, dit-il. J'ai toujours aimé les jeux d'adresse. Plus jeune, je jouais au fer, activité très populaire à l'époque. La pétanque est plus facile, les boules plus légères sont moins difficiles à lancer. Il y a 5 ans, notre homme déménage à Laval et avec son épouse, il s'inscrit au club dont il deviendra président et capitaine d'équipe. Les joueurs pointent et tirent au centre de la nature. Ils s'ébahissent d'un lieu magnifique et très vaste, 17 terrains de pétanque qui sont aménagés. Le club Les Voisins de Laval, composé presque à égalité d'hommes et de femmes, réunit 125 membres et on recrute toujours de nouveaux. Nous jouons en triplette, c'est-à-dire 3 joueurs contre 3, 2 soirs par semaine l'été, et je joue l'hiver au boulodrome de Laval 1 soir par semaine. La pétanque, 12 mois par année, une aubaine pour les mordus. Et une fois l'an, on organise des parties sur la glace pour s'amuser, rigole le président. S'amuser, avoir du plaisir, ces mots reviennent souvent pendant l'entretien. Je sens que Pierre Hébert s'amuse même à parler de sa passion. Nous pratiquons un sport loisir avec seulement de petits tournois. C'est assez simple au départ. Un joueur lance le bouchon ou le cochonnet, puis tente d'en approcher sa boule, résume M. Hébert. L'œil doit suivre le mouvement, un peu comme au curling. Il existe différentes techniques de lancer. C'est pourquoi il est important d'utiliser des boules adaptées à la taille de sa main et à sa force. Ce n'est pas trop compliqué, mais il faut s'exercer afin que le mouvement devienne naturel. Vous connaissez la règle, hein, la première boule lancée place à la stratégie. Selon la position des boules, il faudra décider si l'on s'approche du cochonnet, c'est-à-dire pointer, ou si l'on déplace une boule de l'adversaire pour l'en éloigner, c'est-à-dire tirer. Le but est d'approcher le plus de boules possible du cochonnet pour récolter 13 points. Ça exige de la concentration, de la précision et de l'adresse. Il faut aussi savoir s'adapter et avoir l'esprit d'équipe. Pierre Hébert s'estime bon joueur, mais il pourrait s'améliorer, admet-il. Il me faudrait pour ça mettre les bouchées doubles, et c'est difficile, puisque je suis aussi membre d'un club d'échecs à Montréal et que je fais du bénévolat. De plus, à titre de président et de capitaine, il aime bien prendre soin de son groupe et lui accorder du temps. Le grand avantage de ce jeu est qu'il est ouvert à tous et qu'il s'adapte à la condition physique de chacun. Une de nos membres a joué longtemps en fauteuil roulant. Et une autre, arthritique, joue avec des boules plus légères, souligne le président. On comprend que ce loisir soit devenu si populaire au Québec. Les boulodromes se multiplient et de plus en plus de terrains sont aménagés dans les parcs pour les clubs et les groupes d'amis. Sans compter que ça coûte 3 fois rien, ajoute M. Hébert. Il est difficile de résister une fois qu'on a commencé. On fait de l'exercice, on rencontre des gens qui deviennent souvent nos amis. Et faut-il le répéter, on s'amuse. Alors, si vous décidez de jouer à la pétanque, voilà quelques informations. Il existe au Québec 30 de clubs membres de la Fédération de pétanque du Québec, répertoriés sur le site www.pétanque.qc.ca. Par exemple, à Laval, les Voisins de Laval, à Québec-Vanier, la Boule d'Or, s'y ajoutent aussi plusieurs clubs non fédérés tels que à Montréal, les Boules de Lille, et diverses associations de retraités, plusieurs résidences et des groupes communautaires s'y sont mises aussi. En été, on joue par exemple au Parc La Fontaine, à Montréal, au Parc Saint-Claude à Laval et au Parc Saint-Georges à Pointe-aux-Trembles. Au niveau du matériel, il faut 2 boules par joueur. On les choisira adaptées à sa main en considérant aussi le poids, la dureté et la texture. Les boules de sport détente réglementaire, qui s'appellent de marque Au But, coûtent 6 pour 52 $. On voudra aussi une lingette pour les essuyer, $2, et un ruban à mesurer et un sac aux courroies solides pour le transport. Tout ce matériel ainsi que le livre des règlements est vendu à la boutique de la Fédération de pétanque du Québec, 4545 avenue Pierre de Coubertin à Montréal. C'est au niveau du centre du parc olympique, je crois. On trouve aussi des boules non réglementaires dans les grandes surfaces.
Oh, il y a des tricheurs.
Oui, oui, oui. À lire aussi pour avoir plus d'informations, Pétanque, la passion du jeu par Christophe Cazaza, richement illustré, l'ouvrage présente l'histoire de ce sport, les caractéristiques du jeu, les règles et les astuces. C'est aux éditions Hugo et compagnie. Et aussi une revue, Pétanque Magazine, publication annuelle de la Fédération de pétanque du Québec. Alors, c'est ça pour la pétanque, mais cette année en France, un jeu d'origine finlandaise qui lui ressemble, qui s'appelle le Mulki, faisait fureur. Je ne sais pas s'il a déjà fait son apparition au Québec, pour moi c'est à suivre. C'est un jeu entre la pétanque et les quilles, ça s'appelle le Mulki.
Bon.
Alors voilà, c'était donc à propos de la pétanque, un article écrit par Marie-Josée Lacroix dans la revue Le Bel Âge de juillet-août 2015.
Et Jean-Raphaël aurait dit « c'est pas fini ».
Qu'est-ce que c'est tu veux qu'il dise de plus? Il a tombé en amour avec une espionne russe qui fumait des super slim au milieu de la nuit. Quelque part sur Mont-Royal, tout près de Saint-Denis. Peut-être sur une pleine lune, il ne se souvient plus, mais se souvient de ses yeux perçants au coin de la rue. Se souvient de ses cheveux, se souvient de son odeur et se souvient de la prendre et ainsi perdre son cœur. Ainsi perdre son cœur. Se souvient de la prendre, se souvient de l'odeur. Cherchait dans les ruelles, il cherchait dans les bars. Y a-tu quelqu'un qui a vu cacher mon cœur quelque part? Il déterrait les arbres, détruisait les gazons. Ouais, il cherchait tout partout en dessous de chaque buisson. Quand il marchait sur le trottoir, les gens changeaient de côté pour pas voir le trou de son chest que lui avait laissé. Mais moi je m'ai arrêté, je regardais dedans. J'ai dit hey, tout est ok, couche-toi, laisse passer le temps. Laisse passer le temps. Tout est alright man, couche-toi. Laisse passer le temps. Oui, je l'ai laissé là dans la mousse pour guérir. Et en deux temps, trois mouvements, mais je suis mis à courir. Maintenant, c'est à mon tour de ne pas pouvoir dire plus. Ça, j'ai tombé en amour avec une espionne russe. Oui, je l'ai laissé là dans la mousse pour guérir. Et en deux temps, trois mouvements, mais je suis mis à courir. Maintenant, c'est à mon tour de ne pas pouvoir dire plus. Ça, j'ai tombé. Qu'est-ce que c'est tu veux qu'on dise au juste? On a tombé en amour encore une fois de plus avec une fille qui fumait des clopes au milieu de la nuit. Quelque part sur Mont-Royal, tout près de Saint-Denis. Peut-être sur une pleine lune, on ne se souvient plus. Mais on se souvient de ses yeux perçants au coin de la rue. On se souvient de ses yeux perçants au coin de la rue. Ouais, on se souvient de ses yeux perçants au coin de la rue.
Radio, radio, ça.
C'est bon?
Oui. Joseph Edgar?
Oui.
Ah, c'est pas... Ah non.
C'était Joseph Edgar.
On m'a corrigé, on a bien fait.
C'est bon, hein?
Ouais, c'est très intéressant.
L'espionneau, c'était la première fois que j'entendais celle-là. Bon, alors, écoutez, tantôt on a parlé de problèmes allergiques, là. J'ai reçu des appels, les gens disent « Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire ?» Eh bien, j'ai quelques solutions ici. Le téléphone n'a pas dérougi.
Non, non, non.
Ah, non, non. Alors, la boîte à lunch encore. Notre technicienne ne cesse de répondre. Boîte à lunch, j'ai l'oreille tout rouge, d'ailleurs. Alors, une boîte à lunch sans risque. Catherine Crépeau, dans la revue « Protégez-vous ». Quoi mettre dans la boîte à lunch d'un enfant allergique aux œufs, aux produits laitiers ou au blé ? Et à la maîtresse. Non, ça c'était moi, ça, à la maîtresse. Nous vous proposons 20 idées pour casser la routine et non pas passer la croûte. Les menus que nous avons concoctés en collaboration avec extanzo.org, le centre de référence sur la nutrition de l'Université de Montréal, répondent principalement aux besoins des familles qui doivent redoubler d'imagination pour préparer des repas nutritifs pour un enfant ayant des allergies alimentaires. Ces idées pourront aussi inspirer les parents qui doivent composer avec les interdits imposés par certaines écoles. Alors, les boîtes à lunch répondent à 4 critères. Elles contiennent au moins un aliment de chacun des 4 groupes du Guide alimentaire canadien. 2. Elles fournissent au moins 12 grammes de protéines afin de satisfaire les besoins d'un enfant de 7 ans. Et on peut ensuite ajuster les portions en fonction de l'âge et de l'appétit du jeune. 2 plus grosses portions ainsi qu'une part supplémentaire de légumes, un fruit ou un dessert nutritif peuvent facilement s'ajouter au repas proposé. 3. Elles privilégient l'eau, le lait ou les boissons de soja enrichies, sauf pour les personnes allergiques au soja, pour accompagner les repas. Et notez que les boissons végétales enrichies à base de céréales, boissons de riz, par exemple, ne sont pas aussi nutritives que le lait ou les boissons de soja enrichies et que les jus et les boissons sucrées ne devraient être consommés qu'en quantité limitée. Et 4, elles sont exemptes, bien sûr, d'arachides et de noix interdites dans plusieurs écoles primaires. Alors, quelques conseils. Un repas santé le midi devrait faire une large place aux aliments non transformés et à la cuisine maison. Vous pourrez ainsi mieux contrôler les aliments allergènes. Malheureusement, certaines écoles ne permettent pas les muffins ou biscuits maison parce qu'ils ne sont pas accompagnés d'une liste d'ingrédients. Ouais. Bon, il faudrait que la mère écrive la liste d'ingrédients. Si l'école de votre enfant est de celle-là, choisissez des produits contenant un minimum de sucre et de gras. Votre problème est plutôt un manque de temps. Eh bien, préparez des lunchs pour plusieurs jours à la fois et pour les desserts et les accompagnements, misez sur les fruits et les légumes qui demandent peu de préparation. Privilégiez les produits céréaliers à grains entiers, pain de blé entier, riz brun, pâte de blé entier, etc. Et évitez les charcuteries. Vous pouvez ajouter une ou deux collations dans la boîte à lunch de votre enfant. Nous ne les avons pas incluses dans nos menus, car plusieurs écoles n'autorisent que les fruits, les légumes et les produits laitiers. Incroyable, hein? Alors, ici, dans la revue Protégez-vous, on donne...
Monsieur, des pleines pages de beaux...
Pleines pages. Alors, des menus sans blé, des menus sans lait, des menus sans soja, des menus sans œufs. Et des menus sans 9 des 10 allergènes prioritaires. Alors, on est équipé. Hein?
Oui.
Alors, ici, par exemple, les menus sans blé, celle-là. Là. L'allergie au blé est courante chez l'enfant dans 80% des cas, mais elle disparaît avant l'âge, et dans 80% des cas plutôt, elle disparaît avant l'âge de 5 ans. Ah. Ça aide ça. Alors, pour éviter le blé, écoutez bien ça, à vérifier dans la liste d'ingrédients, OK? Là, sortez pas vos crayons parce qu'il va la mine, il ne restera plus de mine. Mais je vais vous le dire parce que c'est trop, ça n'a pas de bon sens. Alors, il ne faut pas qu'il y ait dans la liste d'ingrédients, pour ceux qui ont des problèmes avec le blé, il ne faut pas qu'il y ait de amidonier. Je ne connais pas lui. Atta. Avez-vous entendu parler de Atta?
Pas souvent.
Ensuite, blé. Ouais, ben oui, bien sûr. Alors, faut pas qu'il y ait de blé. Alors, mou, faut pas qu'il y ait de blé mou, entier, du rhum, hein, du rhum, du rhum, dur et dur. Faut pas qu'il y ait de bulgur au boulgour, de bretzel, de gousgous, en grain, épeautre, blé faro, farine, hein, blanche, enrichie, de gluten, graham, de froment, à pâtisserie, phosphaté, tout usage, du rhum et d'épeautre, farina, froment, gliadine, gluten, gluténine, herbe de blé, hostie.
Hostie? Non, hostie.
J'ai jamais entendu parler de ça. Camut, nouilles de blé, pain de blé, pâtes alimentaires, de blé, seitan, semoule de blé tendre, spelt. S-P-E-L-T. Alors, si vous voyez du spelt et que vous avez un problème avec l'énergie de... L'allergie de blé, oubliez le spelt. Et tritical, point final. Ça, c'est pour ceux qui sont allergiques au blé. Maintenant, si on s'en va allergique au lait, là, on ne plus. L'allergie au lait affecte environ 2 % des jeunes enfants et elle est résolue avant l'âge de 5 ans dans 76 % des cas, heureusement. Alors, pour le fun. Hein? On s'amuse, on est là pour s'amuser, quoi. Parce que là, c'est plus drôle, là, finalement. Alors, pour éviter les produits laitiers, si vous voyez dans la liste des ingrédients, êtes-vous prêt? Alpha-lactabulmine.
Oui.
Arôme de beurre. Babeurre. Bêta-lactoglobuline. Beurre. Beurre clarifié. Caillé. Caséinate. Caséinate de calcium, caséinate de sodium, caséine, crème, crème café, crème glacée, crème sûre, fromage, G-H-E-E, ah bon, huile de beurre, kéfir, kumis, lactabulmine, lactoférine, lactoglobuline, lactose, lactosérum, lactulose, lait sans lactose, mélange de boisson, me dirait qu'en arrêter. Hein. Protéines ovo-lacto-hydrolysées. Simplesse, ah ben ça c'est plus facile, simplesse.
Simplesse?
Oui, simplesse, ça c'est plus simple ça. C'est des succès d'années de gras. Substances laitières modifiées, yogourt de lait. Pour les menus sans soja, alors là, là j'arrête. Mais je veux juste vous dire que c'est courant chez l'enfant. L'allergie au soja disparaît avant l'âge scolaire dans 75 % des cas. C'est encourageant. Hein? Les menus sans œufs ou sans ailes, ça dépend si on est masculin ou féminin. Alors, l'allergie aux œufs affecte environ 2 % des enfants. Elle disparaît généralement avant l'âge de 8 ans. Okay. Parfois, les enfants allergiques sont capables de tolérer les œufs bien cuits avant les œufs crus ou mi-cuits. Okay. Il me reste encore 3 minutes. Ah, il reste 3 minutes à l'émission. Ouais. Ah, mais pas à moi, parce que là, écoute, on n'en finira plus avec ces soirs. Ça n'a pas de bon sens. Mes pauvres parents,
ouais, c'est
oh,
ça.
Hein, je me mets... Oh, je reviens à Marguerite Bourgeois. Elle n'avait jamais entendu parler de ça, Marguerite. Mais non, ça s'est développé avec le je ne sais pas quoi, ces allergies.
Ah, mon Dieu.
Hein? Est-ce que c'est à cause de l'alimentation des années qui ont...
Merci beaucoup, docteur.
Oui, alors écoutez, ça m'a fait plaisir. Maintenant, vous êtes un peu plus au courant.
Oui.
Hein? Alors, lisez les étiquettes, là, parce que vous pouvez... si vous preniez du Ninam hein, et de l'Okara... Et du miso, ça, c'est pour éviter le soja, ça. C'est beau? Alors, moi, j'arrête ici. Je n'en peux plus. Merci.
On vous propose, dans le Reader's Digest, d'investir dans l'avenir. Depuis janvier 2015, l'entreprise suisse Erfolge Velve propose d'inventer un prénom unique pour votre bébé pour la modique somme de 36 500 $. L'équipe est constituée de plus de 32 concepteurs, traducteurs, chercheurs et juristes spécialisés dans les marques de commerce qui étudient l'histoire et la culture de leurs clients pour créer de nouveaux prénoms. L'entreprise ne donne pas d'exemple, mais ne craignez pas l'échec. Chaque prénom est vérifié pour s'assurer qu'il n'ait pas de sens négatif, comme « caca » dans aucune langue. 36 000 $
pour un prénom, c'est pas pire.
Alors moi, je vais, pour terminer, vous donner une version maison du thé glacé, hein, pour se rafraîchir. Alors le thé, les thés glacés du commerce sont généralement très sucrés. Alors pourquoi ne pas opter pour un thé glacé maison ? Il suffit de faire infuser 4 sachets de thé dans 1 litre d'eau bouillante, de le laisser refroidir au frigo. Et au moment de servir, on ajoute des tranches d'agrumes et des glaçons. Voilà un thé santé. Pour une touche sucrée, on peut mettre une cuillère à soupe de miel ou de sirop d'érable.
Ça c'est quand on n'est pas allergique à quelque chose.
Hein. C'est ça. Alors dans l'insolite, gardez la droite. L'Université de la Vallée de l'Utah a divisé ses escaliers en 3 voies. Il y en a une qui, pour ceux qui marchent, une pour ceux qui courent, et une troisième pour ceux qui textent.
Oui. On voit ça dans d'autres pays,
c'est ça.
On est obligé de dire bonjour.
C'était le kiosque magazine du 31 août.
Oui.
Ici, Francine Nieuviard, Serge Hamelin, Roger Roy, et en régie Mathieu Tessier. Nous vous disons à tous...
Bonne semaine.
Oui, et à la semaine prochaine.
Au revoir.